Chapitre 40. Richard haletait quand il atteignit le sommet de la pente. Le souffle court, il était tout simplement au bord de l'épuisement. Depuis son arrivée, il n'avait pas pris le temps de s'alimenter correctement, et maintenant il payait le prix de sa négligence. Les jambes lourdes, l'estomac hurlant famine, il se sentait faible comme un nouveau-né. S'il s'était écouté, il se serait allongé dans l'herbe, juste pour dormir. Mais comment renoncer lorsqu'on était si près du but, surtout avec des enjeux si élevés? En chemin, il avait avalé quelques pignons et des baies rouges découvertes au hasard de la route. Trop pressé, il n'avait jamais consenti à faire l'ombre d'un détour pour se procurer de la nourriture. Ayant emporté son paquetage, il avait avec lui pas mal d'objets utiles. La veille, par exemple, il avait installé une canne à pêche au bord d'un petit lac. Après avoir amassé du bois puis allumé un bon feu, il était allé taquiner le poisson. Une excellente initiative qui lui avait rapporté 3 délicieuses truites. Torturé par la faim, il avait failli dévorer ses prises crues. Le poisson cuisant très vite, il s'était résigné à attendre un peu. Réduisant ses pauses le plus possible, Richard n'avait pas beaucoup dormi depuis qu'il s'était séparé de la Sliff. Plus vite il mettrait la main sur le cadeau posthume de Baracus, mieux il se sentirait. Après l'avoir attendu pendant 3000 ans, le précieux ouvrage ne devait plus avoir tellement de patience. Plein d'amertume, Richard songea à tout ce qu'il se serait épargné s'il avait découvert plus tôt le testament philosophique et magique du sorcier de guerre. Pour se consoler, il se rappela que l'ouvrage pourrait sans doute l'aider à retrouver plus vite Callan. Avec un peu de chance, le grimoire lui apprendrait peut-être aussi à neutraliser la chaîne de flammes et à dissiper ses effets dans l'esprit des gens. Ce plan ambitieux forçait Richard à dénicher le livre le plus rapidement possible. Dès que ça serait fait, il se plongerait dans la lecture du grimoire. Ensuite, s'il lui restait assez de temps, il prendrait un peu de repos puis réfléchirait au moyen le plus rapide de regagner la forteresse. Richard ignorait sa position exacte. En revanche, il savait que sa destination, la forteresse, se trouvait très loin au sud de la sortie de secours évoquée par la Sliff. À première vue, la créature de vif argent avait déposé son voyageur dans une région inhabitée du pays sauvage, bref, quelque chose comme le dernier endroit au monde où dénicher des chevaux de qualité.
« Un problème à la fois, Richard !»
souffla dans son crâne une voix qui ressemblait terriblement à celle de Zed. Face à des difficultés apparemment insurmontables, définir des priorités restait un excellent exercice, et même quand tout paraissait perdu, il suffisait de refuser obstinément la mort pour se sentir un peu moins accablé. Si pénible qu'ait été l'ascension du versant rocailleux de la colline, le sourcier n'était pas du genre à prendre du repos alors que le but était à portée de sa main. Et il avait d'autant plus raison que les flammes nuit, pensait-il se souvenir, étaient exclusivement visibles après le coucher du soleil. Il y avait donc une véritable urgence à ne pas ralentir le rythme, sinon il lui faudrait attendre le lendemain soir. L'ascension achevée, Richard sonda attentivement les environs, afin de bien se repérer. Au sommet de la pente abrupte s'étendait une vaste zone plate, chichement boisée, des chênes pour l'essentiel. La brise étant tombée dès le crépuscule, l'air était parfaitement calme et le silence en devenait en quelque sorte assourdissant. Car ici, tous les bruits familiers de la nuit brillaient par leur absence. Pour une raison inconnue, on n'entendait absolument rien sur le grand plateau où venait de prendre pied le sourcier. À la lumière blafarde de la lune, l'ancien guide forestier vit immédiatement que quelque chose clochait au sujet des arbres. Avec leurs troncs tordus où manquaient de grandes bandes d'écorce et leurs branches recourbées comme des serres, ils semblaient être morts depuis des lustres. Des silhouettes fantomatiques qui défiaient les voyageurs d'avancer vers elles à leurs risques et périls. Jusque-là concentré sur l'effort physique et les difficultés du parcours, Richard s'intéressa de nouveau à son environnement. Tendant l'oreille, il entreprit de se faufiler entre les arbres en faisant le moins de bruit possible. Avec les feuilles mortes et les brindilles qui couvraient le sol, l'exercice se révéla assez délicat. Frissonnant un peu car il faisait assez frais à cette altitude, Richard continua son chemin jusqu'à ce qu'il entende quelque chose se briser sous ses pas. Durant les années passées dans sa chère forêt, il n'avait jamais capté un son pareil. Pétrifié, il se remémora l'étrange craquement, essayant d'imaginer ce qui avait bien pu le produire. En vain. Renonçant à chercher, il recula prudemment pour retirer son pied du mystérieux objet qu'il avait involontairement cassé. Après avoir regardé autour de lui, et plutôt deux fois qu'une, il s'accroupit pour voir de quoi il s'agissait. Pour commencer, il dut retirer une épaisse couche de compost à l'odeur entêtante. Lorsque ce fut fait, il constata qu'un crâne humain venait de casser net sous la semelle de sa botte. Un crâne, oui, assez vieux pour être totalement blanchi et presque aussi friable que de la craie. Il y avait d'autres ossements enfouis sous le compost, plus d'autres crânes nettement moins anciens qui n'étaient pas encore couverts. Plusieurs squelettes gisaient là, bizarrement éparpillés. En étudiant attentivement la configuration de cet ossuaire naturel, Richard conclut très vite que ces gens n'étaient pas morts en groupe, par exemple des soldats tombés dans une embuscade. Pour l'essentiel, il s'agissait d'individus qui s'étaient aventurés seuls au milieu des arbres. Même si c'était impossible à dire avec certitude, Richard supposait que tous ces malheureux avaient été foudroyés à l'endroit où ils gisaient. Par le plus grand des hasards, certains étaient tombés près de victimes plus anciennes. La différence d'âge et d'état des ossements permettait d'exclure radicalement qu'il puisse s'agir du site d'une ancienne bataille. Quand les hommes s'étripaient, hélas une de leurs activités favorites, ils ne faisaient pas traîner les choses sur des décennies, voire des siècles. Non, ce cimetière en plein air s'était constitué de lui-même au fil du temps et sans raison apparente. Ayant parfois vu des restes humains lorsqu'il arpentait la forêt de Heartland, Richard détermina avec une quasi-certitude qu'aucun prédateur n'était venu festoyer sur ces cadavres-là. En général, pourtant, les charognes, humaines ou non, attiraient une meute d'animaux spécialisés dans le recyclage des dépouilles. Mais ce qui restait de celles-ci n'avait jamais été profané par des prédateurs. Les squelettes reposaient toujours dans la position où ils étaient tombés. En outre, aucun n'avait les bras croisés sur la poitrine, comme l'imposait la majorité des rites funéraires connus. Donc, tous les intrus étaient morts très vite, et il n'y avait jamais eu de survivants pour s'occuper de leur corps. Une série de constatations troublantes, surtout lorsqu'on ne pouvait pas mettre les décès sur le compte de quelques mystérieuses bêtes sauvages. Alors qu'il s'enfonçait dans le bosquet de chênes, Richard se demanda vaguement s'il en verrait un jour la fin. Par une nuit sans lune ou une journée grisâtre, c'était le genre d'endroit où on pouvait très facilement se perdre. Avec la monotonie de ce paysage, prendre des repères se révélait impossible, même les rochers se ressemblaient comme des frères jumeaux. N'étaient la lune et les étoiles, Richard lui-même, malgré son sens de l'orientation hors du commun, aurait été incapable de dire s'il continuait à avancer dans la bonne direction. À peu près sûr de suivre les directives de la Slif, le sourcier s'enfonça dans ce qui ressemblait de plus en plus à un champ de cadavres. La Slif n'avait pas pu prévenir son nouveau maître de ce qui l'attendait. N'étant jamais venue jusque-là, elle aurait été aussi surprise et troublée que lui. 3000 ans plus tôt, Barakus avait donné un itinéraire à la créature de Vif-Argent. Mais avec le temps, un paysage pouvait radicalement changer et... Non, les ossements prouvaient que c'était la bonne piste. Considérant les âges très différents des squelettes, on pouvait conclure que des aventuriers trop téméraires pour leur propre bien tentaient régulièrement de découvrir l'endroit où Barakus avait envoyé sa femme après lui avoir confié un précieux livre rédigé de sa main. Assez brusquement, le grand bosquet de chênes céda la place à une forêt d'immenses pins serrés les uns contre les autres. Sur leur premier tiers, les troncs évoquaient irrésistiblement des colonnes de marbre, car ils étaient dépourvus de branches. Au-delà, la frondaison d'une incroyable densité occultait le ciel. Ici, il faisait sombre à toutes les heures de la journée. Marquant une courte pause, Richard se demanda comment il pourrait continuer dans la bonne direction. Si les arbres ne l'avaient pas forcé à zigzaguer en permanence, l'exploit aurait été envisageable, mais là... Alors que de sombres pensées tourbillonnaient dans sa tête, le sourcier capta des murmures. Il inclina la tête, tentant de comprendre ce qu'on lui disait, mais il était encore trop loin pour que ce soit possible. Moins de 50 pas plus tard, les choses changèrent.
« Va-t'en !» souffla une voix. « Qui est là ?
demanda le sourcier sur le même ton.
« Va-t'en ou reste à tout jamais ici avec les ossements de ceux qui t'ont précédé. »
« Je viens pour parler avec les flammes nuit. »
« Dans ce cas, tu as fait un long chemin pour rien, et maintenant file avant qu'il t'arrive malheur. »
Richard se souvenait encore parfaitement du timbre de voix de Char. Un murmure si particulier qu'on ne risquait pas de l'oublier un jour. Cette voix-là était différente, mais il y avait incontestablement des points communs.
« S'il vous plaît, » dit Richard, « avancez vers moi, ce sera plus facile pour parler. »
En l'absence de réaction de son interlocuteur, il fit une dizaine de pas en avant.
« Dernier avertissement !»
lança la voix presque spectrale.
« Va-t'en !»«
Je n'ai pas fait tout ce chemin pour rien !»
s'obstina Richard.
« Il faut que je parle aux flammes nuit, c'est important !»«
Pas à nos yeux !»
Richard s'immobilisa un poing sur la hanche et réfléchit à la meilleure façon de s'y prendre. Mortellement fatigué, il avait du mal à aligner deux idées cohérentes.
« Si, c'est très important pour vous.
En quel honneur ?»«
Je viens chercher ce que Baracus vous a confié. »«
Oui, comme tous les squelettes qui jonchent le sol. »«
Non, c'est différent.
Vos vies dépendent de moi, car dans le conflit en cours, il n'y aura pas de place pour la neutralité. Le monde entier sera entraîné dans la tourmente. »
« Les histoires de trésors que tu as entendues sont absurdes. Il n'y a rien ici pour toi. »«
Des histoires de trésors ? Non, c'est un malentendu, je ne suis pas là pour ça. »« J'ai triomphé des épreuves que Baracus avait préparées pour moi. Je suis Richard Rall, l'époux de Callan Amnel, la mère inquisitrice. »«
Nous ne connaissons pas cette personne. Retourne vers elle tant que c'est encore possible. »«
Je ne peux pas la rejoindre, c'est bien pour ça que je suis là. »« Tu connaissais Callan ? Comme tout un chacun dans les contrées du milieu. Mais un sortilège l'a chassé de presque toutes les mémoires. Ta mémoire est altérée par cette mauvaise magie. »
Afin de se calmer, Richard se passa une main dans les cheveux. Combien de temps lui restait-il pour tout raconter à son interlocuteur invisible? Cela suffirait-il à convaincre les flammes nuit de se mobiliser pour une cause? Franchement, il en doutait, mais que pouvait-il faire d'autre?
Callan venait souvent vous rendre visite, mais tu l'as oublié. Défendre le territoire des Flammes Nuit faisait partie de sa mission. Elle m'a parlé du magnifique royaume des Flammes Nuit. Certains soirs, elle venait danser avec vous à la lumière de la lune. Quand elle évoquait ces moments-là, des larmes de joie faisaient briller ses yeux. Je sais à quel point elle aimait s'étendre dans l'herbe, sous le firmament étoilé, et passer des heures à parler d'espoir, de rêve et d'amour avec les Flammes Nuit. Ton peuple et toi connaissiez Callan, votre protectrice et amie.
Soudain, une volute de lumière jaillit de derrière un arbre.
« Va-t'en, sinon ta dépouille pourrira ici avec celle des autres voleurs. Nul ne saura ce qui est advenu de toi et on ne te retrouvera jamais. »«
Quand j'ai besoin d'or, je fais en sorte d'en gagner. Les trésors m'ont toujours laissé indifférent. »«
L'or n'est pas le seul trésor en ce monde, »
répondit la flamme nuit. Sur ces mots, elle s'éloigna très vite. Minuscule étincelle qui s'enfonçait entre les arbres, tourbillonnant dans les ombres d'une nuit plus noire que de l'encre.
« J'ai rencontré Char !»
cria Richard. La flamme nuit cessa de tourner sur elle-même comme une toupie et ne broncha plus, comme si elle entendait évaluer l'honnêteté de l'humain qui lui faisait face.
« Tu n'es pas ici à cause des histoires de trésors que racontent les humains ?»«
Non. » Comment oses-tu prononcer le nom d'une flamme nuit ?
Quand je l'ai rencontré, Char venait de traverser la frontière pour contribuer à l'effort de guerre contre Darkenral. Callan et elle étaient à ma recherche car je devais devenir le nouveau sourcier de vérité. Avant de mourir, Char m'a dit qu'il me suffirait de citer son nom pour que les flammes nuit me soutiennent. Il en va ainsi parce que aucun ennemi ne peut connaître le nom d'une flamme nuit. Richard désigna le bosquet de chênes au sol jonché de squelettes.
Je suis prêt à parier qu'aucun de ces intrus ne connaissait le nom de Char.
La volute de lumière approcha de Richard et vint se camper devant lui.
Il faut me croire. J'ai parlé avec Char peu avant qu'elle s'éteigne.
Elle était incapable de vivre loin des siens, m'a-t-elle dit, mais elle n'avait plus assez de force pour rentrer chez elle. Elle m'a fait passer la première épreuve prévue pour moi par Baracus. Après m'avoir dit qu'elle croyait en moi, elle m'a interrogé au sujet de secrets,
En fait, c'était un message de Baracus.
As-tu réussi cette épreuve ?
Non, avoua honnêtement Richard. Il était bien trop tôt pour que je comprenne. Mais les choses ont changé, et selon la Slif, j'ai enfin réussi l'épreuve.
Comment t'appelles-tu ?
J'ai grandi sous le nom de Richard Cypher. Puis j'ai appris que Richard Rall était mon véritable nom. Mais on m'en donne d'autres. Le sourcier, l'élu, le messager de la mort, Richard au sang chaud, le caillou dans la mare et le Kaharin.
Un de ces noms te dit quelque chose ? Et as-tu entendu parler de Ghazi ?
Ghazi ? Non, jamais.
Ce nom signifie incendie. Ghazi le tenait d'une prophétie. Si tu étais l'élu, tu le connaîtrais ?
Désolé, ce n'est pas le cas. J'ignore pourquoi, à vrai dire, mais les prophéties et moi, ça fait deux, en règle générale.
Le royaume des flammes nuit est frappé par le malheur, étranger. Nous ne pouvons pas t'aider, il faut t'en aller.
La flamme nuit s'éloigna de nouveau.
Char m'a dit que les flammes nuit seraient à mes côtés si j'avais besoin d'elles. C'est le cas aujourd'hui.
La volute de lumière s'immobilisa de nouveau, comme si elle réfléchissait. Puis elle revint vers Richard et murmura un nom qu'il n'avait plus entendu depuis des années. Le sourcier en eut les sangs glacés.
« Et ce nom-là est-il important pour toi ?»
demanda la flamme nuit.
« C'est celui de ma mère. Comment le connais-tu ? » ?»«
Il y a bien longtemps, Ghazi a franchi une dangereuse frontière pour aider cette femme, en lui parlant de son fils et de ce qu'elle devrait lui enseigner. Notre pauvre Ghazi n'est jamais revenu. »
Que font les flammes nuit pendant la journée ? Demanda Richard d'une lueur étrange dans le regard. Campée devant Richard à hauteur de son visage, la créature magique recommença à tourner sur elle-même.
Nous cherchons les endroits sombres. La lumière n'est vraiment pas notre amie.
Le feu peut-il vous faire du mal ?
Il nous tue si nous ne faisons pas attention.
Par les esprits du bien, soupira Richard.
Que t'arrive-t-il ?
Demanda la flamme nuit.
Que dit la prophétie au sujet de Ghazi ?
Elle parle de sa mort, annonçant qu'elle serait provoquée par des flammes.
Quand j'étais petit, ma mère est morte dans un incendie.
La flamme nuit ne dit rien.
Je suis navré,
souffla Richard, alors que la révélation de Shota retentissait en boucle dans sa mémoire.
Je crois que Ghazi a péri ce soir-là.
Après nous avoir sauvés des flammes, mon frère et moi, ma mère est retournée dans la maison. Jusqu'à ce jour, j'ignorais ce qu'elle était allée chercher. La fumée a dû l'asphyxier, elle n'est jamais ressortie, et je ne l'ai plus jamais revue. Deux personnes sont mortes dans l'incendie ce jour-là, et Ghazi n'avait pas eu le temps d'accomplir sa mission.
La flamme nuit resta un long moment immobile face au visage de Richard.
J'ai de la peine pour ta mère. Malgré les années, des larmes te montent aux yeux lorsque tu parles d'elle.
Incapable de parler, Richard hocha simplement la tête. La flamme nuit recommença à tourner sur elle-même.
Richard Cypher est bien le nom que nous connaissons. Suis-moi. Et nous te dirons ce que Ghazi devait révéler à ta mère.